France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, remonte le temps, l'assassinat de Jean-Paul Marat. Le 17 juillet 1793, au soir, une femme est décapitée sur la place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde à Paris. Bon, ce n'est pas la première à passer sous la guillotine. En ces temps agités, le hachoir national tourne à plein régime, sans distinction de sexe. Mais cette femme est particulièrement détestée. Elle est la meurtrière de Jean-Paul Marat. Et ce n'est pas n'importe qui, Jean-Paul Marat. C'est le fondateur du journal L'Ami du Peuple et l'un des montagnards les plus influents de la Convention. Jour après jour, aux côtés de Danton et de Robespierre, il encourage le combat contre les Girondins et les contre-révolutionnaires à un moment où la France est parvenue à un point de bascule au bord de la guerre civile. C'est dans ce contexte qu'une jeune Normande, qui n'a jamais mis les pieds à Paris, parvient à s'introduire chez Marat et à le tuer d'un coup de poignard dans sa baignoire. Qui est cette femme? Et qui l'a diligentée? Immédiatement arrêtée, elle assume, c'est seule qu'elle a fomenté la mort de Marat, qu'elle surnomme la bête féroce. Cette femme, à la fois aristocrate et révolutionnaire, libérale et traditionnelle, s'appelle Charlotte Corday. Notre invité aujourd'hui est l'historien Guillaume Mazot. Il est l'auteur de nombreux livres consacrés à la Révolution, dont Le bain de l'histoire, Charlotte Corday et l'attentat contre Marat, aux éditions Champ Vallon, livre paru en 2009. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, rédaction chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Denante, réalisation Hélène Vision.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Paris, 13 juillet 1793. Il est 11h du matin. Et déjà, la chaleur est accablante. On parle d'un été exceptionnellement chaud dans le pays. Avec sa peau qu'il démange, Marat décide de rester au frais, chez lui. Il n'a pas le courage de se rendre à la Convention où il siège en tant que député. Pourtant, de la rue des Cordeliers, où il réside, jusqu'à la salle du manège des Tuileries où se tient l'Assemblée, il n'a que 2 kilomètres à parcourir. Alors fendre la foule et affronter les députés, ça non, c'est au-dessus de ses forces. Simone, sa compagne, a versé le vinaigre et le soufre dans son bain afin de calmer son eczéma. Elle a installé son billot, son encrier, quelques liasses de papier, sa planche de bois et sa plume d'oie. Voilà, tout est en place. Marat va pouvoir travailler. C'est important. Il est le fondateur de L'Ami du Peuple, le journal le plus important depuis 1789. On dit même qu'il aurait encouragé les massacres de septembre. Oui. C'était dans le numéro du 19 août de l'année précédente.
Français, il n'est trop vrai que l'Assemblée nationale a recommencé le cours de ses machinations infernales et qu'elle les poursuit avec une impudeur, une effronterie, une audace qui marque assez le mépris qu'elle a pour vous et le dessein qu'elle a de vous mettre au fer. Hâtons-nous de nous armer et ne nous laissons pas surprendre par nos ennemis. Debout, Français, qui voulez vivre libre, debout. Debout, et que le sang des traîtres recommence à couler. C'est le seul moyen de sauver la patrie.
3 jours plus tard, le journal reçoit l'ordre de cesser de paraître. Oh, ce n'est pas la première fois, en janvier 1790 déjà. Le maire de Paris, Jean-Sylvain Bailly, avait demandé l'arrestation de Marat pour excitation aux violences. Le journaliste avait dû s'exiler à Londres avant de revenir. Heureusement, Simone a toujours été là pour lui. C'est elle qui l'a aidé à transformer L'Ami du Peuple en journal de la République. De toute façon, peu importe ce changement de titre, dans l'esprit de tous, L'Ami du Peuple demeure. Il est même devenu, à la faveur d'une délicieuse métonymie, le surnom du député journaliste. Et Simone est si fière d'être sa compagne. Oh oui, elle admire son Marat, mais elle sait ce qu'il pense. Il pense que c'est bien d'avoir voté l'arrestation des 29 députés girondins le 2 juin dernier. Sauf qu'ils ont eu la trouille de passer au tribunal révolutionnaire et qu'ils se sont tous enfuis. Désormais, les voilà qui campent à Lyon, à Caen et à Bordeaux. Des villes devenues des poudrières. Marat en est certain, les girondins fomentent des complots, ils veulent faire main basse sur la République. Mais qu'ils le sachent, s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Et ils la perdront. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, Simone a entendu un émissaire prévenir que depuis quand leurs troupes marchent en Vernon. Pense-t-il vraiment venir à bout des sans-culottes? Il fanfaronne. Nous sommes bien plus nombreux qu'eux, se dit Marat. Quelle bande incapable, ces Girondins, quel ramassis de traîtres. Ils méritent tous la guillotine. Marat le répétait encore hier. Il faut des têtes, et par centaines. Quelle période! Sans parler de la crise économique qui fait flamber le prix du pain, ni les armées étrangères qui se sont coalisées pour calmer ce qu'ils nomment la fièvre révolutionnaire. Mais Marat rassurait Simone. Certes, la ville de Condé vient d'être gagnée par l'Autriche. Mais perdre une bataille ne signifie pas perdre la guerre. Simplement, il ne faut pas faiblir. Voilà pourquoi Simone tient à protéger Marat des menaces et des citoyens qui sans cesse le sollicitent. À force, il va y laisser sa peau.
Qui était-ce ?
Personne.
Va à la fenêtre.
Et voilà que quelqu'un arrive, justement. Simone tend l'oreille et comprend que Jeannette, la cuisinière, s'entretient avec une jeune femme. Cette dernière demande si le 30 de la rue des Cordeliers est bien l'adresse du député Marat. Alors bien sûr, Simone et la cuisinière les conduisent. Le citoyen Marat ne reçoit aucune visite, il est malade. Bon, tant pis, déçu, la jeune femme s'en va. Eh oui, elle est déçue parce qu'elle a fait une longue route pour le voir. Pensez donc, elle vient de Caen. 2 jours pour rejoindre la capitale. 2 jours de diligence, à réfléchir, à faire le point sur sa vie qui, à ses yeux, manque singulièrement d'éclat. Elle a 24 ans et toujours aucune perspective de mariage. Mais qui voudrait d'une noble à ce point désargentée? Certes, son arbre généalogique présente un illustre ancêtre, le dramaturge Pierre Corneille, s'il vous plaît. Hélas, l'un ne rapporte aucun louis d'or à son père. Des années que Charlotte le voit ruminer son sentiment de déclassement, comme l'explique la philosophe Élisabeth de Fontenay dans le Nouvel Observateur du 12 juillet 2018.
Jeune fille, elle n'avait pas pu entrer à Saint-Cyr dans la maison de Madame de Maintenon. Sa mère était morte et son père, noble mais ruiné, labourait ses terres lui-même. C'est par la grâce d'une permission spéciale du roi que Charlotte a été acceptée par les bénédictines de Caen. Elle y a reçu une forte éducation catholique, mais dont très vite elle s'est émancipée. Dès lors, une certitude demeure. Elle invente sa vie.
Elle la réenchante, même. Mais quoi de mieux que les livres? La jeune fille découvre les classiques, mais aussi Voltaire, Rousseau et l'encyclopédie. Les Lumières lui donnent tant d'espoir. L'espoir de réparer les injustices et de relancer un système à bout de souffle. Pour preuve, cette soirée de la Saint-Michel, durant laquelle certains convives portent un toast au roi, toast auquel elle refuse de s'associer. À ses yeux, Louis XVI n'est pas à la hauteur. Il ne fait rien pour lutter contre la misère du peuple. Et elle précise, les rois sont faits pour les peuples et non les peuples pour les rois. Nous sommes alors en 1789 et en tant que libérale, Charlotte voit la révolution d'un bon œil. Oui, elle pense qu'il est bon que l'ancien régime soit régénéré. Mais dès 1790, voilà que la question religieuse la fait douter. Transformer les biens de l'Église en biens nationaux? Vraiment? Et emprisonner tous les prêtres? Ah non, non, elle n'est pas pour. Elle y voit même une sérieuse dérive. D'autant que sa propre famille est aux abois. L'oncle, qui lui a appris à lire Corneille, s'est exilé. Ses 2 frères l'ont suivi. Et plus que jamais, son père glisse dans la mélancolie. Et de surcroît, voilà que le couvent où elle a grandi ferme ses portes. Ça fait beaucoup. Alors Charlotte réfléchit. Chaque jour qui passe lui donne la conviction que la révolution s'est trahie. La mort de Louis XVI, les massacres de septembre, non, non, vraiment tout cela va trop loin. Même en province, c'est dire. Et puis comment oublier que c'est ici, à Caen, que le vicomte de Belzance, âgé de 21 ans, comme elle, a été dépecé et mangé par une foule en furie. Mais Charlotte le sait, elle a assisté à la scène. Le 28 janvier 1793, elle écrit « Tous les hommes qui devaient nous donner la liberté l'ont assassiné. Ce ne sont que des bourreaux. » Le 5 avril, c'est l'abbé Toussaint Combeau qui est décapité. Il était le prêtre de sa famille. Il était auprès de sa mère lorsqu'elle est morte. Mais Charlotte ne perd pas espoir. Elle voit bien que des Girondins se sont réfugiés à l'hôtel des intendances, là, tout près de chez elle. Alors elle pousse la porte de leur assemblée. Et soudain, les voilà en face d'elle qui parlent des montagnards. D'après eux, Marat représente un vrai danger. À la tête de son journal, il hystérise les débats. Car en septembre, il réclamait 40 000 têtes, c'est déjà beaucoup. En octobre, 270 000. C'est alors que Charlotte décide d'agir. Seule et de façon chevaleresque, comme le faisaient ses ancêtres. À côté Jeanne d'Arc aussi. Et peu importe qu'elle soit une femme, la politique l'a toujours passionnée. Comme en témoigne un de ses cousins, Frédéric de Corday, quelques décennies plus tard.
Charlotte avait le feu sacré de l'indépendance. Ses idées étaient arrêtées et absolues. Elle ne faisait que ce qu'elle voulait. On ne pouvait pas la contrarier. Ceci était inutile. Elle n'avait jamais de doute, jamais d'incertitude. Son parti, une fois pris, elle n'admettait plus de contradiction. Son oncle, le pauvre abbé de Corday, en a parlé dans les mêmes termes, comme d'une personne qui avait un caractère d'homme. Elle avait en outre un esprit assez railleur, assez moqueur. Elle était susceptible de sentiments nobles et élevés, de beaux mouvements. Quoique dans la famille, les femmes soient toutes énergiques, il n'y en avait pas qui eussent un caractère aussi décidé, aussi capable. Si elle eût commandé un régiment, elle l'eût bien mené, cela se devine.
Eh bien, Charlotte décide de se rendre à Paris pour tuer le tyran. Voilà. Et sauver la patrie. Où elle sait qu'elle risque la guillotine, mais elle connaît les tragédies inspirées de l'Antiquité. Elle les a lues. Elle y admire l'esprit de sacrifice. Et la mort ne lui fait pas peur. La suite, c'est Guillaume Mazot qui la raconte dans la revue L'Histoire le 1er mars 2004.
Le 11 juillet, vers midi, dans la chaleur qui écrase Paris, Marie-Louise Grolier, tenancière de l'hôtel de la Providence, rue des Grands Augustins, voit entrer dans son vestibule une jeune femme d'environ 25 ans, plutôt grande, les cheveux et le teint clair, disant s'appeler Mademoiselle de Corday d'Armon. Accompagnée d'un commissionnaire qui porte sa malle, elle arrive de la place des Victoires, où une voiture venant de Caen l'a déposée peu avant.
Alors que fait-elle entre le 11 et le 13 juillet quand elle vient à Paris pour la première fois ? Elle n'y connaît personne, mais elle a deux missions. La première est d'approcher le ministre de l'Intérieur, Gara, afin de plaider la cause de son amie Alexandrine de Forbin, une chanoinesse affaiblie depuis la nationalisation de son abbaye. Alors le ministre pourrait peut-être lui accorder une pension. Pour entrer en contact avec lui, elle compte sur l'entremise du député Loz de Perret, qu'elle rencontre le 11 juillet. Le 12, elle passe à son second projet, le plus personnel, le plus ambitieux, rencontrer Marat. Pour y parvenir, rien de mieux que de faire fi de ses particules. Face à l'ami du peuple, elle ne sera plus Marie-Anne Charlotte Corday d'Armon, elle sera Charlotte Corday tout court.
We'll be right back.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Charlotte Corday.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Mercredi 12 juillet 1793. Cela fait deux jours que Charlotte Corday rôde dans Paris. Rive droite, rive gauche, quai de la Seine. Certes, elle a pu approcher le député Loz de Perret, mais il ne lui a rien promis. Ah si, quand même. Il lui a dit que Marat ne se rend plus à l'Assemblée, qu'il est malade et qu'il ne reçoit plus personne. Alors elle envoie le garçon d'hôtel, Pierre-François, lui chercher de quoi écrire. Elle a soudain très envie d'agir et aussi de rédiger un pamphlet. Pourquoi n'en aurait-elle pas le droit, hein ? Elle a lu autant que les hommes. Dans sa chambre, au premier étage du bien nommé hôtel de la Providence, la voilà qui se lance. Le titre, l'adresse aux Français, amis des lois et de la paix. S'ensuivent quatre pages de lignes fiévreuses, quatre pages qui signent son acte à venir.
Jusqu'à quand, malheureux Français, vous plairez-vous dans le trouble et la division ? Les factions éclatent de toutes parts, la montagne triomphe par le crime et l'oppression. Quelques monstres, abreuvés de notre sang, conduisent leurs détestables complots et nous mènent au précipice. Ô Français, encore un peu de temps et il ne restera de vous que le souvenir de votre existence. Déjà, les départements, indignés, marchent sur Paris. Déjà, le feu de la discorde et de la guerre civile embrase la moitié de cet empire. Ô France, ton repos dépend de l'exécution de la loi. Je n'y porte point atteinte en tuant Marat. Condamné par l'univers, il est hors la loi. Quel tribunal me jugera ? Ô ma patrie, je ne puis t'offrir que ma vie, et je rends grâce au ciel de la liberté que j'ai d'en disposer. Personne ne perdra par ma mort, et je veux que mon dernier soupir soit utile, que ma tête, portée dans Paris, soit un signe de ralliement, et que la montagne chancelante voit sa perte écrite avec mon sang.
Un vrai testament politique. Oui, un testament, parce qu'elle va mourir. Et elle le sait. Mais quel honneur de mourir pour la patrie. Comment dort-elle cette nuit-là ? Peu, sans doute. Elle se sent si exaltée. Au lever du jour, la voilà qui sillonne les rues qui bordent son hôtel. Elle se rend au Palais Royal, renommé le Palais de l'Égalité. À 8h, elle longe la galerie de Valois jusqu'au numéro 177 et entre chez le coutelier Badin. Pour 40 sols, elle acquiert un couteau de cuisine muni d'une gaine. Puis, apercevant un crieur de journaux, elle lui en achète un. Plus que jamais, il faut se tenir informé. À 9h, la voilà qui traverse la Seine en direction de la rue des Cordeliers. En ligne de mire, le numéro 30, là où vit ce scélérat Marat. Mais elle se fait éconduire, évidemment. Il est trop tôt, le député journaliste ne reçoit pas. Bon, à 11h, elle retente sa chance, nouvel échec. Cette fois, ce sont deux femmes qui la mettent dehors. Alors, de retour à son hôtel, elle décide de tendre un piège à Marat. Une lettre qu'elle communique à un émissaire.
Citoyen, j'arrive de Caen. Votre amour pour la patrie me fait présumer que vous connaîtrez les malheureux événements de cette partie de la République. Je me présenterai chez vous vers 1h. Ayez la bonté de me recevoir et de m'accorder un moment d'entretien. Je vous mettrai à même de rendre un grand service à la France. Je suis Charlotte Corday.
Quelques heures passent, durant lesquelles fait venir un perruquier qui la poudre et met en valeur ses boucles. C'est bien, sauf que Marat ne lui répond toujours pas. Alors peu à peu, son inquiétude s'accroît. Sa chambre n'est réservée que pour 5 nuits, mais elle n'aura pas assez d'argent pour rester plus longtemps. Alors, comment faire ? Sa bourse, elle la réserve à une éventuelle fuite, si fuite il devait y avoir. Alors elle décide d'écrire une deuxième lettre à Marat, se faisant plus pressante.
Je vous ai écrit ce matin, Marat. Avez-vous reçu ma lettre ? Je ne puis le croire, puisqu'on m'a refusé votre porte. J'espère que vous m'accorderez une entrevue. Je vous le répète, j'arrive de Caen. J'ai à vous révéler les secrets les plus importants pour le salut de la République. D'ailleurs, je suis persécutée pour la cause de la liberté. Je suis malheureuse. Il suffit que je le sois pour avoir droit à votre protection.
Marat tombera-t-il dans le piège ? Ah, Charlotte s'interroge, mais le retourne. Elle se change. et choisit de nouveaux accessoires. Ce sera un fichu rose, un chapeau haut de forme noire, orné de rubans verts, ainsi qu'un éventail. Quant au couteau, elle le cache dans son corsage, avec son certificat de baptême et sa fameuse lettre française. Puis elle part, en laissant sa chambre en désordre. C'est en fiacre qu'elle se rend pour la troisième fois rue des Cordeliers. Il est 7h du soir, et l'air doux porte à la rêverie. Est-ce la raison pour laquelle Mara l'a laissé entrer chez lui ? Il est dans son bain, en train d'écrire. Lorsqu'il entend Simone qui rabrouille une jeune fille, et surtout il y a ces mots qu'il entend. Information importante. La ville de Caen. Caen, là où se cachent ses adversaires. Simone, laisse-la entrer, je veux l'entendre. Simone obéit et Charlotte monte. Au premier étage, elle trouve Mara dans son bain, la tête enroulée dans un linge de vinaigre censé soulager ses migraines. Toujours méfiante, Simone laisse la porte entrouverte. La suite, c'est le philosophe et très normand Michel Onfray qui la raconte dans Le Point du 23 juillet 2015.
Ça y est, elle se trouve face à lui. Il lui demande ce qui l'amène. Elle parle de ce complot des Girondins de Caen. Il veut les noms, elle les lui donne. Il assure qu'il les fera tous guillotiner à Paris. Elle sort alors le couteau de son corsage et le lui plonge dans le cœur. Mara meurt. C'est réglé. Le conventionnel sort de la vie et la Normande entre dans l'histoire.
Les domestiques entendent Mara crier. Alors Simone se précipite et s'exclame, effectivement, mon Dieu, il est assassiné. Et tous se jettent sur la meurtrière, tandis que les voisins débarquent en nombre. En urgence, on fait venir le docteur Pelletan, le même qui, 2 ans plus tard, autopsiera le petit Louis XVII. Entouré de mine sombre, il confirme le décès. D'après lui, le coup de couteau a été particulièrement bien asséné. La mort de Mara a été immédiate. Très pro, la jeune Charlotte Corday. Et très vite, la rumeur affole Paris. Tous s'interrogent. Mais qui est cette fille ? Est-ce un complot des Girondins ? Le commissaire arrive et fait passer Charlotte dans le salon. Sans se faire prier, elle décline son identité. Elle est Charlotte Corday et elle a agi seule. On a du mal à la croire. Alors on la fouille et on découvre sa lettre française dans laquelle elle revendique son acte. À minuit, elle est transférée à la prison de l'Abbaye, où l'on constate qu'elle ne se lamente pas, non. Elle recoue ses vêtements, elle écrit des lettres. L'une d'elles est adressée à son père.
« Pardonnez-moi, mon cher papa, d'avoir disposé de mon existence sans votre permission. J'ai vengé bien d'innocentes victimes. J'ai prévenu bien d'autres désastres. Le peuple, un jour désabusé, se réjouira d'être délivré d'un tyran. J'ai pris pour défenseur Gustave Doulcet. Un tel attentat ne permet nulle défense, c'est pour la forme. Adieu, mon cher papa. Je vous prie de m'oublier. Ou plutôt, de vous réjouir de mon sort. La cause est belle. J'embrasse ma sœur que j'aime de tout mon cœur, ainsi que tous mes parents. N'oubliez pas ces vers de Corneille. Le crime fait la honte, et non pas l'échafaud.
La cause est belle. C'est-à-dire qu'à ses yeux, sa mission est accomplie et qu'elle peut mourir tranquille. Car elle le sait, rien ne lui sera pardonné, surtout pas à Paris. Alors elle ironise et pense un moment exiger de Robespierre, qui était avocat avant d'être montagnard, qu'il assure sa défense. Puis elle se ravise tout de même, ah, Robespierre quand même, et demande Gustave Doulcet, un avocat député de Caen. Elle en est sûre, ses accusateurs seront féroces. En revanche, elle ne s'attend pas à tant de misogynie. Elle la découvre 2 jours plus tard, lors de son arrivée au tribunal. Nous sommes le 15 juillet 1793, et d'emblée, tous sont persuadés d'un complot. Car enfin, comment cette jeune provinciale pourrait-elle parvenir seule à tuer Mara ? C'est une plaisanterie. Le président du tribunal lui dit « Personne ne pourrait croire qu'une personne de votre âge et de votre sexe ait conçu un pareil attentat. » Ce à quoi Charlotte répond « Mais c'est bien mal connaître le cœur humain. » Il est plus facile d'exécuter un tel projet d'après sa propre haine que d'après celle des autres. On croirait du Corneille. C'est du Charlotte Corday. Évidemment, le tribunal ne lui accorde pas l'avocat de son choix. On lui en désigne un d'office, un certain Chauveau-Lagarde, qui plaide pour le fanatisme, alors qu'elle le répète, elle n'est pas une fanatique, puisque son acte est politique. Certes, elle a prémédité son geste, certes, elle a tué un homme, mais c'était pour sauver la France, pour l'extraire de la terreur et lui rendre sa dignité. L'Assemblée souffle. Puis les témoins arrivent. Charlotte les écoute et ponctue chacune de leurs dépositions d'un « c'est vrai ». Le président la trouve bien ingénue et lui demande « parce que vous avez tué Marat, croyez-vous avoir tué tous les Marats ?» Charlotte réfléchit. Mais voilà qu'on insiste et qu'on lui demande si tout de même elle ne s'est pas au préalable entraînée avec un homme. Son geste était si définitif, on ose le qualifier de parfait. Alors, on réitère la question, avec qui s'est-elle entraînée à tuer ? Députée, Charlotte répond. Oh le monstre, il me prend pour un assassin. Malaise dans le tribunal. Qui décide d'en finir et qui la condamne à mort. Voilà, ça suffit. Affaire classée, loin de là. Car au même moment, à 800 mètres de là, on s'occupe ardemment du corps de Marat.
On prépare un masque mortuaire. L'artiste David peint la toile que l'on sait. On embaume le corps du journaliste révolutionnaire. On place son cœur à part dans une urne de plomb. Pendant ce temps, les républicains préparent une cérémonie comme les aimeront les régimes totalitaires, toute une mise en scène. Des flambeaux dans la nuit, une longue procession, un corps embaumé, le culte du mort momifié, une foule compassionnelle, des discours sans fin, des coups de canon, des musiciens qui jouent des morceaux de circonstance. Des femmes portent la baignoire et des hommes le cadavre.
Peut-elle les entendre depuis sa prison, ces foules de Parisiens envahies par le chagrin ? Entend-elle les discours, les mensonges, les exaltations ? Toujours est-il qu'avec un sens inouï de la communication, elle demande que le peintre Jean-Jacques Auer fasse son portrait, oui, afin que ses proches aient un souvenir d'elle. S'imagine-t-elle parader sur un mur du manoir familial à la manière de ses nobles ancêtres ? Ou éclipser le tableau de Marat, promis à la gloire ? Puis c'est le moment fatidique. Nous sommes le soir du 17 juillet et il est temps de rejoindre les condamnés. Or, Charlotte refuse de s'asseoir dans la charrette qui la conduit au supplice. Non, elle préfère rester debout et regarder la foule. Tandis que le ciel se couvre et que l'orage menace avant d'éclater. Un témoin raconte. Elle était superbe dans sa longue tunique rouge que la pluie plaquait contre son corps. Arrivée place de la Révolution, repense-t-elle à ces mots qu'elle a écrits avant de monter dans la charrette ? J'ignore comment se passeront les derniers moments, mais c'est la fin qui couronne l'œuvre. Œuvre ou pas, le bourreau Samson actionne sa machine. Voilà, c'est fait. La tête de Charlotte Corday chute dans le panier. Mais manifestement, ce n'est pas assez pour l'assistant de Samson, qui attrape la tête de Charlotte par les cheveux et qui la gifle à trois reprises. Des cris de protestation surgissent. Mais cela ne suffit toujours pas pour les montagnards qui ont à cœur de la punir. Explication avec Jean-Christophe Piau dans la revue Slate en septembre 2014.
Dans le même temps, le pouvoir s'attache à démolir la mémoire de la jeune femme. Exigée par la montagne, une autopsie est menée dans l'espoir de constater que Charlotte n'est pas vierge. Un moyen d'établir la thèse qui veut qu'un homme l'ait manipulée. Et une violence symbolique évidente sur sa personne. Une femme est sortie de son rôle, on suit donc son corps. En vain d'ailleurs, le certificat produit assure que Charlotte Corday était Virgo Intacta.
Et cela ne suffit toujours pas, car les montagnards enragent d'avoir perdu Marat, leur héros. Ah oui, comment lutter sans lui désormais ? Et puis, il y a cette peur que Charlotte Corday opère comme un modèle auprès des féministes. Un MeToo avant l'heure. Une idée qui en tout cas sème la panique. Alors à son tour, le Conseil de Paris réagit et diffuse ses lignes à travers tout le pays.
C'était une virago plus charnue que fraîche, sans grâce, malpropre, comme le sont presque les philosophes et les beaux esprits femelles. Charlotte Corday avait 25 ans. C'est être, dans nos mœurs, presque une vieille fille. Avec un maintien homasse et une stature garçonnière, sa tête était farcie de livres de toute espèce.
La vérité, c'est que derrière l'outrance de son acte, Et les montagnards le savent. Charlotte Corday incarne un bouleversement total des rapports entre hommes et femmes. Non, les idées ne naissent pas uniquement dans la tête des hommes. Non, l'histoire ne peut pas se faire sans elles. Et pourtant, elles sont marginalisées. Et bientôt, on les exclut complètement de la vie politique. 3 jours après la décapitation de Charlotte, c'est au tour d'Olympe de Gouges, la créatrice de la Déclaration de la femme et de la citoyenne, d'être enfermée et elle aussi condamnée à la guillotine. Puis, le 30 octobre, ce sont tous les clubs féminins qui sont interdits. À rebours du rêve de la jeune Normande qui rêvait d'une nation en paix, la terreur s'emballe dans Paris. En 14 mois, elle fait 40 000 morts. Un temps, Marat semble avoir gagné. Élevé au rang de saint et de martyr, son corps est transféré au Panthéon. Mais cette apothéose est de courte durée. 5 mois plus tard, la fièvre de la terreur retombait, les sculptures à son effigie sont jetées dans les égouts de Paris et son corps échappe de peu à la fosse commune. Non sans ironie, on décide de le déplacer à 300 mètres du Panthéon, dans le cimetière de l'église Saint-Étienne-du-Mont, à la grandiose façade Renaissance. Une deuxième mort pour Jean-Paul Marat.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Charlotte Corday, notre invitée. Guillaume Mazot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des liens entre sciences sociales, art et politique et vos recherches portent sur la Révolution française. Vous avez publié Le bain de l'histoire, Charlotte Corday, l'attentat contre Marat, exactement notre sujet, hein, mais aussi Charlotte Corday en 30 questions au Geste édition 2006. Et c'est vrai qu'il y a au moins 30 questions qu'on pourrait vous poser sur elle. On l'a vu dans le récit, Charlotte Corday a une personnalité étonnante sur laquelle se plaquent des fantasmes. La romancière Françoise Chandernagor écrit « On peut la voir comme une Alice au Pays des Merveilles qui s'égare dans le monde incertain révolutionnaire avec ses intrigues politiques et ses factions rivales, une sorte de jardin de cauchemar. » Vous partagez cette définition ?
Oui, en partie, parce que c'est vrai que Charlotte Corday, si on la connaît autant aujourd'hui, si elle était aussi connue que Jeanne d'Arc au XIXe siècle, c'est contrairement à plein de gens pendant la Révolution française, elle est passée des fantasmes aux actes. Et elle a commis un acte qui est absolument, on dirait, inclassable. D'ailleurs, les contemporains, dès qu'elle a commencé à accéder du rang d'anonyme à la célébrité, ont été complètement interloqués par cette figure qui n'arrivait pas à ranger dans les catégories politiques, d'ailleurs, du temps, qui elle-même évoluait tout le temps. Et donc, en fait, elle a complètement été une figure qui a fasciné les Françaises, les Français, et même internationalement, depuis 200 ans. L'assassinat de Marat, c'est l'événement le plus représenté de la Révolution française, à part la prise de la Bastille depuis la fin du XVIIIe siècle.
Donc, elle était de la ville de Caen. Est-ce que Caen est l'une des villes contre-révolutionnaires ? Je sais que l'Ouest l'était, avec les Chouans d'un côté, les Vendéens de l'autre. Est-ce que du côté de Caen, on voyait la révolution d'un mauvais œil, majoritairement ? Parce qu'il y avait aussi des révolutionnaires, bien sûr.
Alors, pas tellement. Je dirais que Caen, alors ça, c'est une longue tradition de la sociologie politique de cette ville, et aussi du Calvados, d'ailleurs. On était plutôt dans une forme de modération. C'est-à-dire qu'il y avait un club des Jacobins, c'est-à-dire des groupes de révolutionnaires comme dans d'autres villes, mais au moment où Charlotte Corday assassine Marat, donc on est à l'été 1793, on est dans un moment très compliqué de guerre civile, d'invasion intérieure par les armées étrangères, etc., et de radicalisation politique très forte. Et je dirais que ce qui distingue peut-être le Calvados, Caen, mais aussi tous les départements qui organise une forme de campagne de pétition, de mobilisation contre les montagnards parisiens. Mmh. Ils défendent une vision plutôt modérée de la République. Alors, vu de 2025, modérée, ça veut dire quand même très radical, puisqu'on est en pleine révolution.
Mais monarchie parlementaire, par exemple ?
Alors, ils flottent. En fait, beaucoup de gens à cette époque-là flottent entre des opinions qu'ils se tissent au fur et à mesure des événements. Mmh. Nous, on a tendance à les ranger dans des cases qu'on apprend à l'école, d'ailleurs, ou qu'on lit dans les livres d'histoire. Mais pendant une révolution, il faudrait peut-être penser à les événements contemporains qui nous font des points d'accroche, c'est les pays qui sont en guerre ou en guerre civile. Je pense à l'Ukraine. En fait, c'est des catégories qui bougent tout le temps. Donc, en fait, oui, certains sont monarques, enfin, sont pour une monarchie constitutionnelle, d'autres pour une république modérée, pas sous l'influence des classes populaires et des pressions des classes populaires.
La république bourgeoise, quoi.
Oui, voilà. Et au fond, Charlotte Corday, qui est plutôt contre-révolutionnaire, même assez clairement contre-révolutionnaire, elle flotte elle-même un peu dans certaines de ses déclarations.
Alors, on va parler de Charlotte Corday maintenant. Elle est contre la guerre faite à l'Église, mais paradoxalement, on l'a dit athée. D'ailleurs, elle refuse de voir un prêtre avant de passer à la guillotine. Comment comprendre ce paradoxe ?
Alors là, il faut vraiment revenir sur les événements. On parlait de Michel Onfray, notamment, il a écrit un livre sur Charlotte Corday dans lequel il explique qu'il en fait une athée. Alors ça, c'est vraiment une révision de l'histoire assez incroyable. Charlotte Corday, elle est profondément religieuse. Elle défend même une vision très conservatrice de la religion au XVIIIe siècle. Elle est élevée dans un couvent bénédictin, donc c'est un ordre assez rigoureux, même si elle n'y est que pensionnaire. Elle méprise tous les prêtres qui ont prêté serment à la constitution civile du clergé qui a été votée en juillet 1789, donc ceux qui se sont adaptés, en quelque sorte. Elle, dans ses interrogatoires, l'évêque constitutionnel donc a prêté serment du Calvados, qui s'appelle Fauchier, elle dit à quel point elle le méprise. Au fond, quand elle refuse de voir ce prêtre juste avant de se faire exécuter, c'est qu'elle sait que c'est justement un prêtre qui a prêté serment à la Constitution. Donc c'est plutôt par conservatisme religieux qu'elle refuse de le voir. Et puis au fond, elle est devant Dieu à ce moment-là. Donc voilà, nous on est dans une culture laïque depuis les lois de 1905, et on a souvent du mal à comprendre la Révolution où c'est voilà la religiosité est très forte et elle fait partie de ce monde-là.
Alors vous expliquez par ailleurs que Charlotte Corday entre en politique parce que c'est un meurtre politique au nom d'une injustice familiale. Expliquez-nous en quoi la mort de Marat est aussi la réparation publique d'un déshonneur familial.
Alors voilà, un acte politique, publique, elle veut que sa mort serve, soit utile aux Français, donc comme voilà. Mais en même temps, dans les causes profondes de l'événement, il y a aussi une trajectoire personnelle, familiale, qui rend compte aussi de toute la des vies de gens dont on parle pas beaucoup finalement dans l'histoire de la Révolution, c'est-à-dire de ces familles nobles, d'anciennes noblesses qui se sentent vraiment en perte de vitesse à la fin du XVIIIe siècle. Son père, Jacques-François. Oui, il vit comme un gros laboureur, c'est-à-dire comme un gros paysan dans le pays d'Auge à la fin du XVIIIe siècle. Et ça ne va pas sans provoquer un certain sentiment de déclin, de frustration. Et lui-même, d'ailleurs, ne cesse de faire des arbres généalogiques. Il veut placer ses filles dans les maisons les plus prestigieuses. La maison de Saint-Cyr, comme il a été très bien dit dans la fiction. Ensuite, à l'abbaye de la Trinité, qui est une abbaye royale, qui est faite pour accueillir notamment quelques pensionnaires des familles, justement, de la noblesse des Argentés, un peu comme à Saint-Cyr. Mmh. Mais, en fait, en commettant cet acte-là, et elle l'écrit, hein, elle le dit, donc c'est assez clair. Elle veut redorer un blason en imitant finalement un geste qui ressemble au héros de Pierre Corneille ou de Thomas Corneille qu'elle cite, c'est le frère de Pierre Corneille. Mm-hmm. Et c'est des grands ancêtres familiaux, ça. Ils font partie de cette famille-là. Pierre Corneille, c'est Rouen. Et donc, elle le vit, elle tue Marat. D'ailleurs, c'est symbolique, c'est pas une épée, c'est un couteau.
Ouais.
Petite épée, on pourrait dire. Et elle le tue du premier coup, comme si elle avait été élevée dans l'art de l'escrime. C'est vraiment un beau geste d'un point de vue nobiliaire.
Alors, c'est aussi un syndrome qu'on a vu dans l'histoire plus récemment avec l'assassin de John Lennon, Mark Chapman, ou celui de Kennedy, Lee Harvey Oswald, qui étaient deux déclassés, en fait. Alors, concernant Kennedy, on se disait, ben non, quand même, tireur isolé, un déclassé, un minable, c'est trop facile, quoi. C'est pas à la hauteur de l'assassinat. Et on s'aperçoit, quand on gratte bien tout ça, que toutes les pistes qui pouvaient mener à un complot tiennent pas beaucoup et que c'est probablement l'histoire de quelqu'un de déclassé et qui va seul réaliser cette mission. Alors c'est étonnant parce qu'à l'époque, seule la violence collective est tolérée. Hein. Et elle, c'est vraiment un acte individuel.
Oui, c'est un acte individuel, mais qui alors se lie dans un contexte quand même collectif et politique. Parce qu'on est quand même dans une révolution, dans une guerre civile. Heureusement que tous les déclassés ne se mettent pas à tuer des célébrités pour réparer leur sentiment de déclassement. Non, il faut aussi un contexte politique qui fait qu'elle trouve un sens aussi politique, un sens collectif. Et puis, il faut un fond religieux, celui du sacrifice chrétien aussi, puisque c'est aussi comme ça qu'elle le justifie un petit peu. Hein. La reviviscence des premières martyrs chrétiennes. Marie-Antoinette s'identifie beaucoup aussi là-dedans, en tout cas ceux qui...
Il y a un côté blandine, quoi.
Oui, exactement. Mmh. Et donc voilà, il y a quand même une dimension politique qui fait que cet acte, qui en même temps est une sorte de solution personnelle et familiale pour elle, va trouver un sens plus politique. Et c'est en ce sens-là que cet acte, il est politique et il s'inscrit dans la Révolution.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Notre invité Guillaume Mazot, nous parlons donc de Charlotte Corday. Guillaume Mazot, on l'a vu dans le récit, de nombreuses entailles sont commises sur son corps post-mortem, on gifle sa tête décapitée, puis on demande une autopsie afin de s'assurer qu'elle était bien vierge. Quel est le regard des révolutionnaires sur les femmes à cette époque ?
Alors, il est celui que portent les Lumières sur le regard des femmes à cette époque, mais que la Révolution vient renforcer. Mmh. C'est-à-dire celui d'une profonde inquiétude et d'une volonté de séparer clairement le corps féminin et le corps masculin, de les distinguer même par la nature, en mobilisant la médecine, etc. Donc, on a l'impression que nous, ce qu'on appelle donc, le patriarcat, une sorte de séparation et d'infériorisation biologique des femmes par rapport aux hommes, on a l'impression que ça existait tout le temps, mais en fait, c'est assez récent, ça date des Lumières. Et donc, la volonté de... Voilà, la peur de ce qu'on appelle l'empire des femmes, c'est-à-dire l'influence qu'exerceraient les femmes sur les hommes, à la cour de Versailles, etc., est permanente. Alors, quand elles deviennent visibles et quand elles commencent à agir, puisqu'elles commencent à agir dès le début de la Révolution, comme les hommes, un peu différemment, en fonction des rôles qui leur sont aussi attribués dans la société à cette époque-là, eh bien, ça crée une peur masculine et les premiers retours de bâton sont très rapides. Et évidemment, l'assassinat de Marat provoque... C'est comme si c'était la preuve éclatante que les femmes menacent... menacent la Révolution, menacent la République et qu'il faut les exclure. Et ça ne va pas tarder à arriver, puisque quelques mois plus tard, le 30 octobre 1793, c'est notamment en parlant de Charlotte Corday, mais aussi de Marie-Antoinette, qui, peu de temps auparavant, 15 jours auparavant, a été exécutée, eh bien, on interdit officiellement les clubs de femmes dans la République. Donc, voilà, cet événement, il est paradoxal, parce qu'il a à la fois mis en lumière la capacité d'une femme, et en plus une femme noble, qui n'était pas connue, à agir et à renverser le cours de l'histoire. Et elle l'a affirmé, comme ça, Charlotte Corday. Hein. Mmh. Et en même temps, ça va être terrible pour l'exclusion des femmes hors de la sphère publique et hors de la sphère politique.
Alors, on a retrouvé dans un article du Nouvel Obs du 12 juillet 2018 les mots d'Elisabeth de Fontenay, qui dit « Elle a inventé sa vie », elle parle de Charlotte Corday, « Elle a inventé sa vie, mais cela me frappe d'autant plus qu'il n'y avait aucune revendication féministe chez elle. » Et elle s'est jamais référée, Charlotte Corday, au combat d'Olympe de Gouges ou d'autres femmes politiques de l'époque ?
Non, d'abord, Olympe de Gouges, elle n'était pas si connue que ça pour son combat politique en ce qui concerne le droit de vote, le suffrage, etc. Elle était plus connue en tant qu'autrice à cette époque-là. Et surtout, comme beaucoup de femmes de la fin du XVIIIe siècle, ces revendications-là, elles ressemblent pas encore totalement à celles que deviendront celles des féministes à partir des années 1830. Elles sont moins structurées, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un discours d'émancipation, en tout cas de volonté d'autonomie ou de droit à l'action.
Ouais,
et Charlotte Corday, et ça vient parfois de plus loin en fait, faut parfois le lire comme une forme de tradition qui ressemble pas au combat féministe. Et je veux dire par là que beaucoup de femmes, par exemple de la noblesse au XVIIe siècle, prenaient les armes, étaient capables d'agir, de défendre un territoire, etc. quand il y avait des guerres civiles, pendant les guerres civiles de religion par exemple, ça, c'était arrivé. Corday se situe un petit peu comme ça, dans cette tradition de ce qu'on appelait les femmes fortes.
Alors, dans sa lettre aux Français, c'est marrant d'ailleurs, j'ai l'impression que François Mitterrand a piqué l'idée en 1988 pour sa campagne, il a écrit une lettre aux Français, enfin peu importe. En juin 2023, la maison Ozenla de Versailles a mis aux enchères cette fameuse lettre aux Français. Est-ce que vous y étiez ?
Alors, j'y étais pas, mais on m'a consulté, notamment le musée de Normandie, pour quand un territoire ou... l'État compte préempter un document parce qu'il a de l'importance en tant que patrimoine, évidemment, on consulte des experts. Voilà. Donc oui, j'ai été consulté à ce moment-là.
Qu'est-ce qu'on vous a demandé ?
Bah, si ça valait le coup. une partie d'ailleurs des lettres de Charlotte Corday sont conservées, alors pas l'adresse aux Français, mais dans l'armoire de fer, aux Archives nationales, dans le musée d'histoire de France. C'est avec le serment du jeu de paume, par exemple. Hein. Donc ça veut dire qu'elles sont quand même considérées comme une forme de patrimoine national. Je trouve ça intéressant, d'ailleurs, qu'on reconnaisse comme étant, comment dire, comme faisant partie du patrimoine national, des documents qui viennent de la contre-révolution, de femmes, c'est-à-dire de gens dont on, ou de groupes dont on raconte peu l'histoire en ce qui concerne l'histoire de la Révolution. Donc.
Aujourd'hui, comment est-elle représentée et présentée dans les manuels scolaires d'histoire? Quelle image on retient d'elle?
Alors, en passant, on en retient peu. Alors, elle était très connue au XIXe siècle, très connue même à l'école, au début de la Troisième République, parce qu'à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de monarchistes en France, et mobiliser Charles de Corday, ça permettait quand même de tendre une main vers ces gens qui oscillaient entre la monarchie et la République. Aujourd'hui, alors les femmes sont vraiment racontées, elles ont leur place dans les manuels scolaires, dans l'histoire de la Révolution, mais c'est plutôt Madame Roland, c'est plutôt Olympe de Gouges, qui est complètement une sorte de monument national maintenant, et c'est très bien. Charlotte Corday rentre pas vraiment dans ces cases-là, et puis au fond, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Marat et Charlotte Corday, ce qu'ils racontent quand même, c'est l'histoire de la violence.
Pardonnez-moi, Guillaume Mazot, l'histoire de la violence, on voit qu'on a encore de grandes coquetteries à raconter le côté sombre de la Révolution, le côté sa violence. Rendez-vous compte que le seul qui a osé faire ça, c'est un Polonais, c'est même pas un Français, c'est Weichda, pour Danton. Est-ce que vous pensez qu'il y a une difficulté à aborder aujourd'hui pour les historiens, et même dans la sphère politique, le côté violent de la Révolution? Et je pense bien sûr à la Terreur, et avant tout à Robespierre.
Alors, pas vraiment, parce que finalement, souvent la Révolution et cette période-là qu'on appelle la Terreur, 1793-94, on la raconte quand même beaucoup à travers la violence. Ce qui est difficile, c'est de penser cette période-là et la Révolution d'une manière complexe, de rendre compte de la complexité de la violence. Et d'ailleurs, ce face-à-face entre Marat et Charlotte Corday raconte bien que cette violence, elle vient moins de la Révolution elle-même que de la guerre civile. Et cette guerre civile, elle a en France une tradition qui dépasse de loin la Révolution française. Les guerres civiles de religion, le XVIIe siècle avec la monarchie absolue, c'est une histoire qui est parsemée de violences très fortes, terribles même. Donc la Révolution, évidemment, s'inscrit dans cette longue histoire. Elle donne à la violence une coloration, une ampleur très spécifique quand même, évidemment. Avec, au nom de la Révolution, Marat, commettre et justifier les violences envers les ennemis du peuple, et d'autre part, au nom du passé.
On est encore loin d'un biopic Robespierre. Par exemple, c'est la fin de l'émission. Guillaume Mazot, merci d'y avoir participé, merci de nous avoir donné vos éclairages. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, Charlotte Corday. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.